ah, ah, mais votre volonté, au fond, si vous voulez, elle n'existe pas, vous écriez-vous, m'interrompant d'un grand éclat de rire. Même à l'époque où nous vivons, la science est si bien parvenue à anatomiser l'homme que nous savons parfaitement que la volonté et le prétendu libre arbitre ne sont rien d'autre que... Tout doux, messieurs, je voulais commencer par ça moi-même. Je vous l'avoue, vous m'avez fait peur. Je voulais juste vous crier que cette volonté, le diable seul savait de quoi elle dépendait, et que j'avais bien fait, sans doute, de m'être souvenu de la science. Et je me suis écrasé. C'est là que vous êtes intervenu. Parce que c'est vrai, n'est-ce pas? Si l'on trouve vraiment une formule pour toutes nos volontés et tous nos caprices, c'est-à-dire de quoi ils dépendent, quelles sont au juste les lois qui les font naître, qui font qu'ils se développent, ou ce vers quoi ils tendent dans tel ou tel cas, etc. Enfin, une formule mathématique véritable. Alors, c'est sans doute vrai que l'homme cessera tout de suite de vouloir et même, sans doute, cessera-t-il à coup sûr. Qui donc pourrait vouloir vouloir selon une formule? Bien plus, l'homme cessera tout de suite d'être un homme et deviendra une goupille d'orgue ou quelque chose comme ça. Parce que, qu'est-ce que c'est donc qu'un homme sans désir, sans volonté, sans souhait, sinon une goupille dans un jeu d'orgue? Qu'en pensez-vous? Examinons les probabilités. Cela peut-il arriver, oui ou non? Décidez-vous. Nos désirs sont presque toujours erronés à cause d'une conception erronée de nos intérêts. C'est pour cela qu'il nous arrive de vouloir vraiment n'importe quoi, si c'est dans ce n'importe quoi que nous voyons par pure bêtise le chemin le plus court pour atteindre un intérêt supposé d'avance. D'accord, mais quand tout sera expliqué, calibré sur une page, ce qui est très possible, parce que c'est moche quand même, et c'est absurde de croire d'avance que l'homme ne découvrira jamais de nouvelles lois de la nature. Alors, évidemment, il n'y aura plus de prétendu désir. Car si la volonté, un beau jour, se met vraiment de mèche avec la raison, c'est donc alors que nous raisonnerons et que nous arrêterons de vouloir parce qu'il est impossible, par exemple, en gardant sa raison, de vouloir une chose absurde, d'aller de cette façon, en toute conscience, à l'encontre de la raison et de vouloir du mal. Et comme tous les désirs et les raisonnements peuvent être calculés réellement, parce qu'on finira bien par découvrir un jour les lois de notre prétendu libre arbitre, donc c'est bien vrai que je ne ris pas, il peut en découler quelque chose comme une table, de sorte que, vraiment, nous nous mettrons à faire nos volontés selon cette table. Si, par exemple, un jour, on me dénombre et on me prouve que si j'ai dit « merde » à quelqu'un, c'était évidemment parce que je ne pouvais pas ne pas le dire et que je devais le dire avec exactement l'intonation qui fut la mienne. Alors, qu'est-ce qu'il me restera de libre en moi, surtout si je suis instruit et que j'ai un diplôme? À ce moment, je peux prévoir ma vie pour les 30 ans à venir. Bref, si cela se fait, nous autres, il ne nous restera plus rien à faire. De toute façon, il faudra bien se soumettre. En général, ce que nous avons à faire sans nous lasser, c'est de nous répéter qu'obligatoirement, à telle minute et dans telle circonstance, la nature ne nous demande pas notre avis. Qu'il faut que nous l'acceptions telle qu'elle est et non pas telle que nous nous la représentons dans nos fantasmes. Et que s'il est vraiment exact que nous voulions aller vers les tablettes et le calendrier et bien, même vers les cornues, alors donc, que voulez-vous? Il faudra bien admettre les cornues. Sinon, c'est la cornue qui s'admettra toute seule sans nous. Eh oui, mais bon, messieurs, c'est là que je vous y prends. Messieurs, pardonnez-moi de m'être lancé dans la philosophie, mais 40 ans de sous-sol, je peux bien me permettre un peu de fantaisie. Voyez-vous, la raison est, messieurs, une excellente chose. Je vous l'accorde volontiers. Mais la raison n'est rien que la raison. Elle ne satisfait donc que les besoins rationnels de l'homme, alors que le vouloir est la traduction même de la vie tout entière. Oui, je veux dire de toute la vie humaine, la raison y comprise, et les grattages de ménage. Et même si notre vie n'apparaît souvent pas très propre sous cet éclairage, elle est quand même la vie, et pas seulement une extraction de racines carrées. Moi, par exemple, je veux vivre de façon absolument naturelle pour satisfaire toute mon aptitude à vivre et non pour satisfaire seulement toutes mes aptitudes rationnelles, c'est-à-dire juste un vingtième et encore de toute mon aptitude à vivre. Que peut connaître la raison ? La raison ne peut connaître que ce qu'elle a eu le temps d'apprendre. Le reste, je crois qu'elle ne le saura jamais. Ce n'est peut-être pas une consolation, mais pourquoi ne pas le dire ? Or, la nature humaine fonctionne comme un tout, avec l'ensemble de ce qu'elle contient, conscient et inconscient. Elle peut vous faire n'importe quoi, mais elle vit. Je soupçonne, messieurs, que vous me considérez avec de la compassion. Vous me répétez qu'un homme civilisé, évolué, enfin l'homme tel qu'il sera dans l'avenir, ne pourra désirer sciemment une chose qui lui serait néfaste, que cela est mathématique. Je suis parfaitement d'accord. C'est bien mathématique. Mais je vous répète pour la centième fois qu'il n'y a qu'un seul cas, oui, un seul cas, où l'homme peut délibérément, en toute conscience, se souhaiter quelque chose de néfaste, de stupide, et même le plus stupide qui soit, je veux dire, pour avoir le droit de se souhaiter même ce qui est le plus stupide et ne pas être lié à cette obligation de se souhaiter toujours le plus intelligent. Parce que cette stupidité suprême, parce que ce caprice, en vérité, messieurs, peut-être arrive-t-il qu'il soit, en certains cas surtout, ce qui peut exister de mieux au monde. En particulier, il peut être le meilleur de tous les biens, même s'il se révèle évidemment nuisible et s'il vient contredire les conclusions les plus sensées de notre raison sur ce qui lui procure du bien. Parce que, dans tous les cas, il nous conserve ce qui nous est le plus fondamental et le plus précieux, je veux dire notre personnalité, notre individualité. Certains affirment, n'est-ce pas, que c'est cela qui est le plus précieux pour l'homme. La volonté, si elle le veut, peut parfaitement bien sûr se fondre à la raison, surtout si l'on n'exagère pas cette raison, si l'on s'en sert avec modération. Elle est une chose utile et même quelquefois louable. Mais très souvent, même la plupart du temps, la volonté lui reste obstinément irréductible et vous savez quoi ? Cela aussi, c'est très utile et c'est parfois même très louable. Supposons, messieurs, que l'homme ne soit pas stupide. C'est vrai, voilà une chose qu'on ne peut absolument pas dire de lui, ne serait-ce que pour cet argument. Si l'homme est stupide, qui donc peut être intelligent ? Mais s'il n'est pas stupide, il reste monstrueusement ingrat. Ingrat phénoménalement. Je pense même que la meilleure définition de l'homme est la suivante. Créature bipède et ingrate. Et ce n'est pas tout encore. Cela n'est pas son défaut principal. Son défaut principal est sa mauvaise conduite perpétuelle, constante, depuis l'époque du déluge jusqu'à celle du Schleswig-Holstein, des destins de l'humanité. La mauvaise conduite, donc, l'absence de raison. Puisqu'il est établi depuis longtemps que le manque de raison provient de la mauvaise conduite. Essayez de jeter un œil sur l'histoire de l'homme. Que voyez-vous ? Du grandiose ? Je veux bien, du grandiose. Rien que le colosse de Rhodes, par exemple, il se pose là. Le sieur Anaïevski témoigne à juste titre du fait que les indices qu'il serait œuvre humaine, quand d'autres affirment, au contraire, qu'il fut créé par la nature elle-même. Un paysage bariolé ? Sans doute, le paysage est bariolé. Il suffirait d'examiner à travers tous les siècles et chez tous les peuples, ne serait-ce que les uniformes d'apparat, tant chez les militaires que chez les civils, eux aussi, ils se poseraient là, et pour les uniformes de fonction, on s'y casserait les dents. Aucun historien ne tiendrait le coup. De la monotonie ? Mais oui, sans doute, de la monotonie. Ils se battent et se battent encore. Ils se battent aujourd'hui, ils se battaient avant. Ils se battront plus tard. Accordez-moi que c'est même un peu trop monotone. Bref, on peut dire ce qu'on veut de l'histoire du monde. Tout ce qui peut venir à l'idée de la cervelle la plus dérangée. La seule chose qu'on ne puisse pas dire, c'est qu'elle est raisonnable. Vous vous contrediriez au premier mot. Et regardez un peu l'ennui qui vous arrive. Car enfin, on voit paraître constamment devant nos yeux des hommes tout ce qu'il y a d'honnête et de raisonnable, des sages, des amis du genre humain, qui justement assignent pour but à toute leur existence de mener une vie aussi honnête et aussi raisonnable que possible, d'illuminer, pour ainsi dire, leur prochain avec eux-mêmes, pour lui prouver au fond qu'il est possible dans les faits de vivre sa vie d'une façon honnête et raisonnable. Eh bien, on le sait, beaucoup de ces amis du genre, un jour ou l'autre, à la fin de leur vie, se trahissent et terminent par je ne sais quelles aventures, dont certaines sont même carrément mal polies. Maintenant, je vous demande, que pouvez-vous attendre de l'homme s'il est une créature douée de qualités aussi bizarres? Mais couvrez-le de tous les biens du monde, noyez-le dans le bonheur la tête la première, pour qu'il ne reste que des petites bulles à glouglouter à la surface de ce bonheur, comme sur une mare, donnez-lui une suffisance économique telle qu'il ne lui reste absolument plus rien à faire, sinon dormir, manger de la brioche et s'agiter, l'histoire du monde ne s'arrête pas. Lui, l'homme, je veux dire, une seconde plus tard, par pure ingratitude, par pur désir de nuire, il vous fera une entourloupe. Il ira jusqu'à remettre sa brioche en jeu et se souhaitera, exprès, les bêtises les plus catastrophiques, la plus anti-économique des absurdités, dans le seul but de mélanger à toute cette raison si positive son élément fantastique fatal. Oui, ce sont bien ses rêves fantastiques, c'est sa bêtise la plus crasse que l'homme voudra se conserver dans le seul but de se confirmer à lui-même, comme si cela était vraiment tellement indispensable, que les hommes sont encore des hommes et pas des touches de piano sur lesquelles jouent peut-être les propres mains des lois de la nature, mais qui menacent ses mains de jouer au point qu'il sera interdit de vouloir hors des limites de l'almanach. Et bien plus encore. Même au cas où il serait vraiment une touche de piano, même si c'est là une chose qu'on lui démontre par les sciences naturelles et la mathématique, même là, il ne se rendra pas à cette raison, il fera sciemment quelque chose contre, par pure ingratitude. En fait, rien que pour s'obstiner. Et s'il n'a plus de moyens, il inventera la destruction et le chaos, il inventera toutes sortes de souffrances, et il la soutiendra, sa position. Il lancera au monde sa malédiction, et comme il n'y a que l'homme qui puisse maudire, ça c'est son privilège, ce qu'il distingue le plus fondamentalement des autres animaux, je gage qu'il atteindra son but avec sa seule malédiction, qu'il arrivera donc à se convaincre vraiment qu'il est un homme et pas une touche de piano. Si vous me dites que même cela, on peut le calculer sur des tablettes, même le chaos, la nuit et la malédiction, que c'est la seule possibilité du calcul préalable qui arrêtera tout et que la raison reprendra le dessus, alors l'homme fera exprès de devenir fou pour perdre cette raison et s'obstiner dans son idée. Je suis sûr de cela, c'est une chose que je garantis parce qu'il me semble bien que toute l'activité humaine, vraiment, ne consiste qu'en cela, que l'homme se prouve à chaque instant qu'il est un homme et pas une goupille d'orgue. Par ses plaies et ses bosses, mais qu'il le prouve. Même en retournant dans les cavernes, mais qu'il le prouve. Après cela, comment ne pas pécher, ne pas se féliciter que tout cela n'existe pas encore, et que pour l'instant, la volonté dépend encore de Dieu sait quoi. Vous me criez, si seulement vous me faites encore l'honneur de me crier dessus, que personne ne me l'enlève, ma volonté. Que tout ce qu'on essaie de faire ici, c'est d'arranger le monde de telle façon que la volonté d'elle-même, par sa volonté propre, concorde avec mes intérêts normaux, avec les lois de la nature et de l'arithmétique. Voyons, messieurs, de quelle volonté propre pouvez-vous parler si nous en arrivons jusqu'aux tablettes et à l'arithmétique, s'il n'y a plus que 2 × 2 font 4 qui fonctionnent ? 2 × 2 feront toujours 4, que je le veuille ou non. C'est comme ça qu'elle existe, ma volonté ?